Bienvenue à Jean-Claude et son épouse, et à Hénan et son épouse, et à tout le monde qui sont là. On est vraiment content d'être là ensemble. Un petit troupeau à Saint-Félicien. On est dans la série de David, un cœur qui bat pour Dieu, 1 Samuel 24. Mais avant de lire, je vais juste vous raconter une petite histoire. Vous allez peut-être voir la pertinence plus tard. Lorsque j'avais à peu près une douzaine d'années, j'allais pratiquement tous les ans dans des camps pour jeunes. C'est encore fort un peu, hein? Si tu peux baisser le volume, s'il vous plaît. J'allais 2 semaines dans des camps d'été pour jeunes, des colonies de vacances chrétiennes. Puis je me rappelle un de ces étés-là, je m'amusais tellement du matin au soir qu'à peine j'avais le temps de faire ma toilette le matin puis me brosser les dents le soir. Au bout d'une dizaine de jours, je me suis vu du coin de l'œil dans le miroir dans la salle de bain commune, parce qu'il n'y avait pas de miroir devant les éviers, il y avait juste un miroir accroché au mur latéral. Je me suis vu du coin de l'œil dans un miroir, la salle de bain, puis je me suis regardé, et puis j'ai tellement fait le saut, parce que je ne me reconnaissais plus. J'avais engraissé. J'avais tellement couru, dépensé de l'énergie, puis à force de courir, puis nous tenait occupés les moniteurs, tout ça, puis à force de s'occuper, puis de manger comme des petits porcs au repas, ben j'avais pris du poids, mais j'avais des joues toutes boursouflées, puis j'ai fait le saut, je me suis pas reconnu. Et si quelqu'un me l'avait dit, je l'aurais probablement pas cru. Et ça démontre qu'en tant qu'être humain, c'est curieux comment on est fait, mais on ne se voit pas complètement, ni physiquement, ni spirituellement. On est souvent aveugle, du moins en partie, à notre propre état physique ou spirituel, pas vrai? On va revenir sur la nécessité des miroirs tantôt dans nos vies. Mais pour l'instant, je vous invite à tourner dans 1 Samuel 24. On va lire dans la Bible du Semeur pour la clarté. David repartit de là pour s'installer dans les falaises escarpées d'En-Gedi. Lorsque Saül revint de sa campagne contre les Philistins, vous vous rappelez, hein, David avait été pourchassé par Saül et ses hommes, il avait presque réussi à l'atteindre, mais David et ses hommes, ils étaient d'un bord de la montagne d'un gros rocher, puis on avait vu comment est-ce que Christ est notre rocher, comment Christ, il faut se réfugier en Christ pour être à l'abri de l'ennemi et du jugement juste de Dieu. Donc là, Saül revient de sa campagne contre les Philistins et on l'informe que David se trouve maintenant dans le désert d'En-Gedi, c'est près de la mer Morte. Alors le roi rassembla 3 milliers d'hommes élites choisis dans tout Israël et se mit à la recherche de David et de ses compagnons jusqu'en face d'En-Gedi, c'est ce qui signifie le rocher des bouquetins. En passant près des parcs à moutons, en bordure du chemin, il vit une grotte et il y entra pour satisfaire un besoin naturel. Or, David et ses hommes se tenaient précisément au fond de cette grotte. Les compagnons de David lui chuchotèrent, « Voici le moment annoncé par l'Éternel, lorsqu'il t'a promis de te livrer ton ennemi pour que tu le traites comme bon te semble. » Alors David se leva et alla couper un morceau du manteau de Saül sans que celui-ci s'en aperçoive. Dès qu'il l'eut fait, son cœur se mit à battre très fort parce qu'il avait coupé un pan du manteau de Saül. Il dit à ses hommes, « Que l'Éternel me garde de jamais faire une chose pareille et de porter la main sur mon Seigneur à qui Dieu a conféré l'onction, loin de l'Éternel, car c'est de la part de l'Éternel qu'il a été oint. » Par ces paroles, David arrêta ses hommes. Il ne les laissa pas se jeter sur Saül. Vous imaginez la scène. David, il va, il coupe juste un petit morceau, il revient. Là, les hommes, hey, « Non, 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 hey, on y va. » Puis là, David, il est obligé de les retenir. Le roi sortit de la grotte et continua son chemin. Alors, David sortit de la grotte derrière lui et appela Saül. « Monseigneur le roi! » Saül se retourna et David s'inclina respectueusement, le visage contre terre, et se prosterna. Pensez-y là. ce Saül-là. Là. Puis il dit à Saül, « Pourquoi écoutes-tu ceux qui te disent que je cherche à te nuire? Aujourd'hui même, tu vois de tes yeux que l'Éternel t'a livré en mon pouvoir dans la grotte. On me disait de te tuer, mais je t'ai épargné et j'ai dit, « Je ne porterai pas la main sur mon Seigneur, car il a reçu l'onction de la part de l'Éternel. Il est loin de l'Éternel. » Regarde mon père, vous comprenez, c'est son beau-père. Oui, regarde ce que je tiens dans ma main, un pan de ton manteau. Puisque j'ai coupé le pan de ton manteau et que je ne t'ai pas tué, reconnais donc qu'il n'y a de ma part ni malveillance ni révolte et que je n'ai aucun tort envers toi, alors que toi, tu me traques pour m'ôter la vie. Que l'Éternel juge entre toi et moi et qu'il te fasse payer le mal que tu m'as fait, mais moi, je ne porterai pas la main sur toi. Comme le dit le vieux proverbe, du méchant vient la méchanceté, mais je ne porterai pas la main sur toi. Contre qui le roi d'Israël est-il parti en guerre? Qui poursuis-tu? Un chien mort? Une misérable puce? Oui, l'Éternel sera notre juge et prononcera son verdict entre moi et toi, qu'il examine et qu'il défende ma cause, qu'il me fasse justice et me délivre de toi. Quand David eut fini de parler ainsi à Saül, celui-ci lui dit, « Est-ce bien toi qui me parles, mon fils David? » Et il se mit à pleurer à chaudes larmes. Puis il dit, « Tu es plus juste que moi. Tu m'as traité avec bonté alors que moi, je t'ai fait du mal. Tu viens de montrer aujourd'hui que tu agis avec bonté envers moi, puisque l'Éternel m'avait livré en ton pouvoir et que tu ne m'as pas tout tué. » Si quelqu'un surprend son ennemi, le laisse-t-il avec bienveillance poursuivre sa route? Que l'Éternel te récompense pour ce que tu as fait pour moi ce jour. Maintenant, tu vois, je sais que tu seras certainement roi un jour, et que le royaume d'Israël sera stable sous ton autorité. À présent, jure-moi seulement par l'Éternel que tu n'extermineras pas mes descendants après ma mort et que tu ne chercheras pas à faire disparaître mon nom de mon groupe familial. » Alors David le promit par serment à Saül qui retourna chez lui, tandis que David et ses compagnons regagnèrent leur refuge dans la montagne. Prions. Éternel notre Dieu, roi de l'univers, Dieu de lumière, roi éternel. C'est devant toi, Seigneur, qu'on se courbe ce matin, qu'on veut s'arrêter pour entendre ta voix. Donne-nous un esprit de sagesse et de révélation pour te connaître, Père. Oui, illumine les yeux de notre cœur. Éclaire notre intelligence. En ton nom, Père, on chasse toute autre voix que la tienne. Viens maintenant, Esprit Saint, éclaire-nous sur la sainte parole du Père pour la gloire du Christ bien-aimé. Amen. La nécessité de miroir. On a vu ça tantôt. Voici la phrase sommaire pour me permettre de vivre en communion avec lui. Dieu doit briser ma volonté propre et m'empêcher de devenir un petit roi ou reine égocentrique. La première chose qu'on voit dans notre passage, c'est que David refuse, écoutez bien, David refuse d'interpréter les événements, les circonstances en sa faveur et de porter la main sur loin de l'Éternel. Ça a l'air anodin, ça a l'air simple comme concept, mais combien de fois nous, toi et moi, chrétiens, nous égarons parce que nous interprétons les circonstances en notre faveur et nous n'arrêtons pas pour savoir est-ce que c'est la volonté de Dieu. Ah, il arrive tel emploi. Hey, c'est cet emploi-là que je cherchais toute ma vie depuis. Je suis tout petit. L'emploi, Dieu dispose d'un emploi. Ah, il va falloir que je travaille tous les dimanches. Ah, ouais. C'est de valeur, hein? Et là, on met de côté les choses de Dieu parce qu'on interprète les événements. Ah, c'est Dieu qui m'a donné l'emploi. Là, c'est un petit exemple, j'en ai une tonne comme ça, d'exemples comme ça. C'est la tentation d'interpréter une situation égoïstement, égocentrique. Vous savez que dans le passé, on a vu c'était quoi la différence entre une vie égocentrique et christocentrique. La vie égocentrique est centrée sur soi, c'est Dieu c'est toi qui es au centre. Le centre devrait être Dieu, mais c'est toi. Et qu'est-ce qui caractérise la vie égocentrique? C'est l'autonomie. Moi, je décide. L'autonomie. L'auto vient de soi. Nomi, c'est le mot grec qui veut dire loi. C'est moi qui fais ma loi. C'est moi qui décide. C'est moi qui fais ma loi, les règles de ma vie. C'est moi qui décide. L'autonomie. C'est un principe qui est répandu dans la société d'aujourd'hui. Hein? Fais ce que tu veux. Pas fais ce que tu veux comme on a chanté, Seigneur. Fais ce que tu veux. L'autonomie. Garde David, l'Éternel, il dispose de ton ennemi là. Vas-y, fais ce que tu veux faire là. Tu veux l'éliminer là? Autoprotection. On a vu ça. Auto-justification. Je suis justifié à faire ce que je fais. Auto-satisfaction. Auto-suffisant et autodidacte. Vous vous rappelez de ces choses-là? Wow! On est tous comme ça, là. Toute la gang. On est tous comme ça. Il n'y a pas d'exception, mes amis. On est tous comme ça. La tentation est forte pour David et ses hommes de mettre fin à la souffrance une fois pour toutes. N'oubliez pas, là, petit résumé. Qu'est-ce qui se passe dans la vie de David depuis quelques années? Il est chassé comme un chien sauvage. Il doit dormir dans des grottes, des endroits humides, froids, inconfortables. Il doit se cacher tout le temps. Il est séparé de sa femme. Il vit dans la souffrance. Et là, enfin, celui qui a la cause de toute cette souffrance-là, là, c'est lui, là, le petit OK? C'est lui la cause. Le Seigneur, il te délivre entre tes mains. Saisis l'occasion. Fais-le. Puis ces hommes sont là. David, nous, on est tannés, là. On est tannés de cette vie-là. Vas-y. Eux, ils souffrent aussi, là. Imaginez la pression, comment elle est forte. La réaction des hommes qui souffraient également, ce n'était pas une décision populaire du tout, là, ce que David a décidé de faire. Hein? De refuser d'interpréter les événements en sa faveur. Pourquoi? Parce qu'il avait compris quelque chose. Et on va voir c'est quoi ce quelque chose. Mais retournons un petit peu encore par ailleurs. On se souvient que Saül a commencé à jalouser David des suites. Presque tout de suite au début, après la défaite de Goliath et des Philistins, lorsque les femmes louent David plus que lui, il tente de le tuer à plusieurs reprises en le tirant sa lance. Il tente de le faire tuer par les Philistins en proposant la main de sa fille. Il ordonne qu'on aille le tirer de son lit pour l'exécuter. Hey. Il le pourchasse à travers le pays. David doit s'enfuir de chez lui, quitter sa femme, vivre comme un fugitif, coucher dans les fossés, dans les cavernes, sombres, froides, humides. Tout cela à cause d'un roi complètement égocentrique, centré sur lui-même et fou. Je le répète, je le dis souvent, mais ça vaut la peine de dire. Tu n'as pas besoin d'être méchant pour faire du mal autour de toi. Tout ce que tu as besoin de faire, là, concentre-toi sur toi. Vis une vie égocentrique, là, puis tu vas faire plein de dégâts dans la vie de tout le monde autour de toi. Tout ça à cause d'un roi égocentrique et complètement capoté. Mais la question, c'est pourquoi? Pourquoi David, pourquoi Dieu permet à son oint David, là? Parce qu'oubliez pas, Dieu a dit, ben Saül, c'est fini pour moi, c'est David le nouveau. Mais pourquoi David doit vivre cette... pardon, je pense que je suis dans la mauvaise présentation. Ouais, excusez-moi. Il faut que je trouve la bonne. OK. Bon. Je n'ai pas la bonne présentation, c'est pas grave. On va vivre avec. Dieu permet la situation. Pourquoi Dieu permet cette situation-là? Est-ce que tu t'es déjà posé cette question-là? Pourquoi Dieu, tu permets à tout ça de m'arriver? Pourtant, David pourrait dire, je suis ton oint. Je n'ai pas demandé. C'est toi qui m'as promis de régner et regarde ce qui m'arrive. As-tu déjà pensé des choses comme ça? Moi, je suis venu à toi, Seigneur, j'ai cru à ta parole, je me suis joint à ton Église, et voilà ce qui m'arrive. Pourquoi faut-il que ça soit tant difficile, Seigneur? Pourquoi? Pourquoi les gens sont méchants avec moi? Peut-être que tu dis quelque chose comme, « Sais-tu que c'est juste depuis que j'ai commencé à servir dans l'Église que ça va mal? » Tantôt, on a eu un encouragement de servir dans l'Église. C'est bien. C'est ce que Dieu veut. Mais qui a déjà commencé à servir dans l'Église juste pour qu'on lui lance des critiques? Juste pour qu'on l'attaque? Juste pour que le pasteur s'en prenne à toi? Comment ça se fait? Qu'est-ce qui m'arrive pourtant, Seigneur? Je voulais te servir, je voulais faire le bien. Pourquoi ma vie est si misérable? Quand vas-tu répondre à mes aspirations? C'est depuis que j'ai commencé à te servir que les choses vont mal, Seigneur. David aurait pu facilement dire quelque chose de semblable, pas vrai? Oui, il y a un ennemi, on a un ennemi. Il y a un ennemi qui tente de te décourager. Ça, c'est vrai. Quand tu te lèves pour servir le Seigneur, l'ennemi va commencer à essayer de te décourager. Mais, c'est un gros mais, l'ennemi, écoutez-moi bien, l'ennemi ne peut rien faire contre toi à moins que ton Père l'ait permis. Ça veut dire que si Dieu permet à l'ennemi de t'attaquer, il y a une raison. Il y a une raison à ça. C'est quoi cette raison-là, voyons? C'est la nécessité du brisement. La nécessité du brisement. Pourquoi, Dieu, tu permets que je vive depuis des années comme un fugitif? Imaginez David. Pourquoi je suis chassé comme un chien mort? Je suis obligé de coucher ici, à droite, à gauche, toujours en fuite, jamais stable, jamais en sécurité. Pourquoi, pourquoi, pourquoi? Une bonne partie de la réponse se trouvait justement en face de lui, Saül. Saül n'avait pas toujours été méchant. Son parcours, en fait... commence de façon très semblable à celui de David. David, hein, comme un oublié dans les champs, là, il prenait soin des brebis de son père. Saül, quand on commence à lire son histoire, il est où? Il est en train de pourchasser les ânesses de son père à travers monts et vals dans l'arrière-pays. C'est pas glorieux, là. Il venait d'une petite famille, sans importance en Israël. Il part de très bas, Saül. Pareil comme David. Puis, pas seulement ça, mais on n'a pas étudié la vie de Saül. Mais là, sans le demander, Samuel l'apostrophe, il est loin roi sur Israël. L'Esprit de Dieu saisit Saül. Il remporte des victoires par la foi, délivre Israël des Philistins, des Ammonites. Il commet des choses extraordinaires. Il accomplit des exploits. Mais un jour, un petit jour, arrive une situation qui révèle que son cœur ne vivait plus pour la gloire de Dieu. Dieu lui donne un ordre, va détruire Amalek, il va, mais il décide d'épargner le roi, puis les meilleurs brebis, les meilleurs bœufs, etc. Pourquoi? Parce que ces hommes, ils ont dit, ben là, Saül, ça n'a pas de sens, là, regarde, regarde tout ce beau bétail-là, on n'est pas pour détruire tout ça, là. Il a cédé à la pression des hommes. Pourquoi? Parce qu'il vivait en fonction de la gloire que les hommes pouvaient lui apporter. Quand tu as peur de l'être humain, là, sais-tu quoi? C'est parce que tu cherches la gloire des êtres humains. Si tu ne cherches pas la gloire des êtres humains, tu te fiches de ce que les êtres humains pensent de toi. Et subtilement, ce qui est arrivé, j'avais un bon diagramme pour ça, mais gars, c'est le brisement. Je le reconnais, c'est le brisement. Le royaume de Dieu, imaginez, le royaume de Dieu rencontre mon royaume. Et là, il y a une petite flèche qui descend du royaume de Dieu, petite flèche qui descend de mon royaume, et qu'est-ce que ça fait? Ça fait que moi, j'essaie d'intégrer le royaume de Dieu dans mon royaume. Dans le cercle de mon royaume, Dieu, son royaume, en fait partie. Hein? C'est mon royaume. Saül avait oublié que ce n'était pas son royaume. C'était le royaume du Très-Haut. Et là, si on prend le royaume de Dieu et mon royaume, qu'est-ce qui devrait normalement arriver quand les deux se rencontrent? Mon royaume disparaît à l'intérieur du royaume de Dieu. Et là, puisque c'est son royaume, arrive un jeune qui abat un géant dont tout le monde avait peur, lui-même inclus. C'est une menace. David, c'est une menace. Et là, Satan est là. Il faut que tu l'élimines. C'est une menace pour toi. C'est une menace pour ton fils Jonathan. Il chuchote, il l'encourage. Mais son cœur n'était plus avec Dieu. Son cœur était déjà détourné sur qui? Sur lui-même. Égocentrique. Égocentrique. Et il devient jaloux. Il devient fou de jalousie. Il devient méchant, meurtrier, tout en se justifiant. On a vu, les êtres humains, comment est-ce qu'on est? On aime ça se positionner en tant que victime. Victime. On aime ça se positionner en tant que victime. Pourquoi? Parce qu'après ça, je suis justifié. Je suis justifié à faire tout ce que je veux parce que c'est moi le victime, c'est moi la victime. C'est moi à qui on a fait tort. Donc, je suis justifié. Regardez les leaders du monde entier, là. Souvent, c'est ce discours-là. Vous n'avez pas besoin de regarder les leaders, regarde ton propre cœur. On aime ça se positionner en victime. Ça fait notre affaire. Alors pourquoi Dieu, tu permets que je vive ça, dit David. Pourquoi toi, tu peux dire à Dieu, pourquoi je vis ça, cette méchanceté envers moi, ces critiques, ces lances. Puis qu'est-ce qui est la réponse normale de l'être humain quand on te lance une lance? C'est quoi la réponse normale, naturelle? Hein? Tu prends la lance puis tu lui retournes. Pas vrai? Donc, tu es critiqué dans l'Église. Tu envoies la critique. Quelqu'un réagit mal. Tu deviens en colère. Qu'est-ce que tout ça te montre? Ça démontre que tu t'es accaparé de quelque chose. Ton ministère, là, c'est pas ton ministère, c'est le ministère de Dieu qui t'a confié, mais c'est devenu ton ministère. L'Église, c'est plus l'Église de Dieu, c'est mon Église, le pasteur. Ben, si tu ne m'écoutes pas, je viens fâcher. C'est pas mon Église. Mais on fait tous ça. On le fait tous ça. Moi inclus. On prend ce qui appartient à Dieu, puis on se l'accapare. Le royaume devient, s'intègre à mon petit royaume, à moi. C'est pour ça. C'est pour ça que, petite critique, fâche. Ça ne marche pas comme tu veux. Tristesse, anxiété. David, Dieu le met en face de qui il pourrait devenir. Voyez-vous? David est obligé de subir. La foudre de celui qui s'est détourné de Dieu. Pourtant, il était loin de Dieu. Il avait l'onction de Dieu. Dieu est en train de le tenir là devant Saül pour l'empêcher de devenir comme lui. Il dit, regarde dans le miroir. Voici à quoi tu pourrais ressembler. La nécessité des miroirs. Dans la situation présente, David, on voit qu'il a compris. Il a compris quelque chose. Il fait le bon choix. Il a passé à deux cheveux de faire le mauvais choix. Quand il a coupé le vêtement à Saül, le cœur s'est mis à battre parce qu'il a su tout de suite, c'est pas bon. C'est pas bon ce que je viens de faire là. Il a passé très, très près de ressembler à celui qui l'allait tuer. Si il avait posé ce geste-là, il se serait mis sur le même chemin que Saül. Parce que là, il prend les choses en main. C'est mon royaume à moi. Mais la situation nous montre que David fait le bon choix. Il ne cherche pas à établir son royaume par ses moyens. Il se soumet à l'autorité de Dieu. Et Dieu doit faire ça avec toi, mon ami, et avec moi, parce qu'on est de la même nature que David. On est de la même nature que Saül. Pense pas une minute que si tu as eu un pasteur méchant avec toi, là, que ton cœur ne serait pas capable de faire la même chose. On est tous pareils. Et on a besoin de miroirs. Parfois, le Seigneur met des gens autour de nous pour nous garder humbles, pour nous montrer comment nous sommes et nous empêcher de devenir comme eux. À certains moments dans ma vie, je disais exactement ça au Seigneur. Pourquoi, Seigneur, mon collègue de travail est tellement difficile? Pourquoi c'est difficile? Pourquoi il est si centré sur lui-même? Pourquoi ça me pourrit la vie, Seigneur? Pourquoi c'est difficile dans l'Église? Pourquoi je veux juste servir, puis là, ben, regarde ce qui m'arrive. Nécessité de brisement. Voici ce que Dieu dit dans Ésaïe 66. Voici sur qui je porterai mes regards. Sur celui qui souffre et qui a l'esprit abattu. Sur celui qui craint ma parole, qui respecte ma parole, qui révère ma parole. Ça va t'apporter à souffrir. Car ainsi parle le Très-Haut, dans la demeure est éternelle et dont le nom est saint, j'habite dans les lieux élevés et dans la sainteté, mais je suis avec l'homme contrit et humilié, afin de ranimer les esprits humiliés, afin de ranimer, vivifier les esprits contrits. Dieu, il n'est pas un sadiste, Dieu. Il ne veut pas te faire souffrir parce que ça fait plaisir de te faire souffrir. Il y a un but. Il y a un but. Et c'est quoi le but? C'est t'amener à être en communion avec lui. À faire de lui ton trésor, pas ton petit royaume. À faire de lui le but de ta vie, le centre. De t'empêcher d'aller vers une vie égocentrique, mais de vivre une vie christocentrique. C'est ça le but. S'il y a un but à ça. Et il nous fait pas souffrir inutilement. Le psalmiste dit, « Avant d'avoir été humilié, je m'égarais, maintenant j'observe ta parole. Il m'est bon d'être humilié, afin que j'apprenne tes statuts. C'est par fidélité que tu m'as humilié. » Psaume 119, 65, 71 et 75. « Humiliez-vous donc, dit Pierre, sous la puissante main de Dieu, afin qu'il vous élève au moment voulu. » Dieu doit faire peser sa main puissante sur toi et sur moi, cher ami, pour qu'on ne se laisse pas aller vers une vie égocentrique et qu'on ne devienne pas des petits Saül. Sais-tu quoi? Parfois, la façon qu'il emploie pour faire ça, c'est justement de te faire vivre sous un Saül, pour te confronter à toi-même. Je ne veux pas dire que tu dois rester dans une situation abusive, je veux être clair, hein? David n'est pas resté. Même là, dans le récit qu'on vient de lire, où ce que Saül semble repentant, hein? Semble, je dis bien semble, il est contrit en tout cas, il est triste. Mais la suite nous montre qu'il n'était pas vraiment repentant. Mais même dans cette situation-là, on dirait, OK, David, ben regarde, Saül est repentant, retourne-y, là. Non, c'est marqué, Saül est retourné, puis David est parti de son bord. Tu ne dois pas rester nécessairement dans une situation abusive, là, OK? On s'entend, là, que ce soit dans le couple, ou dans une église, ou ce qu'il y a abus d'autorité, ou ce que le leader est centré sur lui-même et pas sur les besoins des brebis. Bon. Est-ce qu'il y a vraiment un leader dans l'univers qui est 100% comme ça? Non. Je ne peux pas prétendre être 100% comme ça non plus. Mais vous comprenez, il y a des abus d'autorité et je ne vous dis pas qu'il faut rester là. Mais Dieu souvent utilise des circonstances comme ça pour nous enseigner. Le parcours du Christ et de ceux qui lui appartiennent. Voici ce que l'auteur aux Hébreux dit, « Mais voici ce que nous constatons. Après avoir été abaissé pour un temps au-dessous des anges, Jésus se trouve maintenant couronné de gloire et d'honneur à cause de la mort qu'il a soufferte. Ainsi, par la grâce de Dieu, c'est pour tous les hommes qu'il a connu la mort. En effet, Dieu, qui a créé tout ce qui existe et pour qui sont toutes choses, ce Dieu-là, qui voulait conduire beaucoup de fils à participer à sa gloire, bien, il convenait pour cela d'élever à la perfection par les souffrances celui qui devait leur ouvrir le chemin du salut. » Autrement dit, Jésus est comme un nouveau David. Hein? On sait que Jésus, c'est le fils de David. C'est celui à qui revient le règne. Mais ce Jésus-là, Dieu l'a fait abaisser, devenir un homme. Et là, ce n'était pas suffisant. Il a souffert la mort jusqu'à la mort de la croix. Et c'était pour amener beaucoup de fils à la gloire. La gloire de Dieu. Et toute sa vie, Jésus a vécu dans l'intimité avec le Père et centré sur le Père. Parfois, le petit bout de phrase ici, élevé à la perfection par ses souffrances nous cause un peu de problèmes. Je ne sais pas si ça vous cause des problèmes, cette double phrase-là. Moi, ça m'en a déjà causé. C'est, voyons, Jésus, il était déjà parfait, non? Il était sans péché, oui. Alors, pourquoi il doit élever à la perfection? Ce n'est pas dans le sens de péché. Dans le second 21, on lit, il fallait qu'il soit qualifié parfaitement. Ah, qualifié parfaitement par ses souffrances. Je vous donne un exemple. Je ne sais pas s'il y en a qui aiment acheter des outils chez Canadian Tire. Bien, le dépliant, des fois, ils vont marquer sur un outil ou sur un appareil quelconque quand « tester ». Avez-vous déjà vu ça? « Tester », OK? Bon, si on leur dit « c'est quoi ça? C'est quoi que ça veut dire? » Bien, c'est que là, on a pris, mettons, une scie ronde, là, une skill saw, mettons. On l'a utilisé pour couper toutes sortes de matériaux. On l'a mis à l'épreuve dans toutes sortes de situations. On l'a laissé dehors à la pluie. On l'a subi à de la chaleur intense. On l'a laissé tomber d'un certain certaine hauteur. On l'a trimballé par la corde. On a fait subir toutes sortes d'abus à cet outil-là. Puis savez-vous quoi? L'outil a résisté, puis elle fonctionne encore très bien. Elle a passé le test. Donc, on a élevé à la perfection. On a parfaitement qualifié par tous ses abus, par toutes ses souffrances, si on veut, l'outil. Vous pouvez en avoir confiance. C'est ça que ça veut dire. Christ, il n'avait aucun défaut au départ. Mais Dieu l'a fait passer par tout ça et ça l'a qualifié parfaitement comme roi. Le problème avec les rois humains, c'est qu'ils se disqualifient comme Saül, comme toi et moi, parce qu'ils deviennent égocentriques. Ça veut dire, je ne suis plus en mesure de prendre soin de toi, de toi, de toi. Je suis en train de bâtir, moi, mon petit royaume. Et ce n'est plus pour la gloire de Dieu, c'est pour ma gloire. Mais Jésus n'a jamais fait ça. Jésus est venu, il s'est soumis à toute cette souffrance-là, tout en toujours étant centré sur Dieu et les autres. Et c'est pour ça qu'il, maintenant, Dieu l'a souverainement élevé. Amen. Regardez Philippiens aussi, hein? Philippiens 2, au chapitre 2, verset 3, je vous le lis. Ne faites donc rien par esprit de rivalité ou par un vain désir de vous mettre en avant. Au contraire, par humilité, considérez les autres comme plus importants que vous-même. Et que chacun regarde non ses propres qualités ou ses propres besoins ou ses propres intérêts, mais celles des autres. Tendez à vivre ainsi entre vous, car c'est ce qui convient quand on est uni à Jésus-Christ. C'est pour ça que j'ai dit ici, le parcours du Christ et de ceux qui lui appartiennent. On est appelé à suivre Jésus dans ce parcours-là. Tendez à vivre ainsi entre vous, car c'est ce qui convient quand on est uni à Jésus-Christ, lui qui, dès l'origine, était de condition divine, ne cherchait pas à profiter de l'égalité avec Dieu ou à retenir comme un butin, hein, quelque chose là, qu'il faut s'accrocher, mais il s'est dépouillé lui-même. Il a pris la condition du serviteur et s'est rendu semblable aux hommes en tout point, et tout en lui, il montrait qu'il était bien un homme. Il s'abaissa lui-même en devenant obéissant jusqu'à subir la mort, oui, la mort de la croix. C'est pourquoi Dieu l'a élevé, comme on voit dans Hébreux ici, à la plus haute place, il lui a donné le nom au-dessus de tout nom, pour qu'au nom de Jésus, tout être agenouille dans les cieux, sur la terre et jusque sous la terre, et que chacun déclare « Jésus-Christ est Seigneur à la gloire de Dieu le Père ». On a parlé de service ce matin. On a parlé de mettre son don au service. C'est important. Je dis « Amen » à ça. Mais qu'est-ce qui qualifie quelqu'un pour servir? Qu'est-ce qui qualifie quelqu'un pour servir? C'est la puissance spirituelle, c'est la capacité de faire des grandes choses pour Dieu. Hein? C'est sa grande foi qui le qualifie. C'est pas ses capacités. C'est pas sa puissance spirituelle. C'est l'humilité dans le but de glorifier Dieu et de donner sa vie pour ses frères et sœurs. Et mes amis, curieusement, c'est ça qui te qualifie dans le royaume de Dieu. De quelle façon Dieu qualifie les gens dans son royaume? Bien, vous regardez à David. C'était pas parfait, David, on va le voir. Mais c'est une image de Christ. La façon que Dieu l'a qualifié parfaitement, c'est par là, par son humilité, sa volonté, son acceptation de s'humilier pour donner sa vie, pour que les autres aient la vie. Dieu doit inévitablement me briser et te briser pour qu'on soit utile dans son royaume. L'utilité, c'est de glorifier sa personne en donnant sa vie pour les autres. La façon que Dieu qualifie les gens dans son royaume, c'est en les amenant à ne pas se centrer sur eux-mêmes, mais plutôt par amour se centrer sur lui et ses enfants. Humblement donner sa vie pour les frères. C'est ce que Christ a fait. David a dû apprendre cette leçon et passer par là. Christ en est l'exemple parfait. Et toi? Et moi? Qu'allons-nous faire? Bien, ce matin, c'est le repas du Seigneur. Comme je dis souvent, lorsque Dieu te révèle quelque chose, si Dieu t'a parlé ce matin, c'est une révélation. Okay? C'est une révélation. Dieu il fait grâce. Il nous fait grâce de révéler sa pensée. D'accord? Une révélation, c'est quoi la réponse à la révélation de Dieu? R-A-C-E. R-A-C-E. Vous êtes une race de prêtres. Vous êtes une race. R-A-C-E. Révélation. C'est quoi la réponse? A? Adoration. Adoration. La réponse à la révélation de Dieu doit être l'adoration. Deuxièmement, c'est quoi? Confession. C'est que lorsque Dieu me montre quelque chose, il veut que je regarde dans le miroir et que je dise, OK, ouais, ça ne correspond pas vraiment. Je suis désolé, Seigneur. Je te demande pardon. Je te confesse que ma vie ne correspond pas vraiment à ce que tu viens de me révéler ou en tel point et tel point. Sinon, la parole devient une connaissance qui va produire quoi? L'orgueil. La connaissance, si elle n'est pas accompagnée de l'adoration, la confession et ensuite l'engagement, l'engagement, ça produit l'orgueil. Faites bien attention à ça, mes frères et sœurs. Vous aimez ça, comprendre les Écritures? Vous aimez ça, connaître des nouvelles choses? Attention, il y a un danger. Le danger, c'est l'orgueil. Paul le dit, la connaissance enfle. Donc, j'aimerais prendre un temps maintenant, vous laisser l'opportunité, suite à la révélation de la parole de Dieu, de répondre en adorant, en confessant et en vous engageant. Soit silencieusement, mais si vous voulez le faire verbalement aussi, bien parfait, ça va nous édifier. On en est tous là. On en a tous besoin. On est tous dans le même bateau. Fait que pensez pas que vous êtes le seul. Vous n'êtes pas seul. Puis ce que vous confessez à Dieu, là, ben moi, ça va m'aider à moi aussi de confesser. Si vous vous engagez envers Dieu, là, ça va m'aider moi aussi à m'engager. Comprenez? On est ensemble là-dedans. Tu n'es pas seul. Fait que gêne-toi pas de prier. Gêne-toi pas d'adorer. Gêne-toi pas de confesser et de t'engager. Ça va? Donc, on se donne un petit 5 minutes, puis après ça, je vais demander à Maurice de revenir pour le repas du Seigneur.